Les podcasts de l'Institut de France.
Chercheurs à l'honneur.
D'ici 2050, l'antibiorésistance pourrait tuer plus de personnes que le cancer. La recherche avance lentement, développer un nouvel antibiotique prend des décennies et coûte des milliards d'euros, mais certains chercheurs proposent des pistes très prometteuses. C'est le cas de Capucine Braillon qui a plongé dans les pharmacopées arabes médiévales pour y chercher de nouvelles molécules antibactériennes. Sa thèse a été distinguée par le prix Michel Serres 2026. Capucine Braillon, bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
Vous avez travaillé sur un type de source très particulier qui sont donc les pharmacopées arabes médiévales. Pharmacopée, qu'est-ce que c'est ?
Ça fait un peu peur, mais oui. C'est rien de compliqué. Les pharmacopées, en fait, c'est tous les textes médicaux. En fait, même ça existe encore actuellement, la pharmacopée européenne, c'est tous les textes qui normalisent les substances thérapeutiques, que ce soit donc des plantes ou même les molécules qu'on a isolées maintenant.
D'accord.
C'est tout ce qui décrit les normes des médicaments. Et nous, donc, on étudiait les pharmacopées arabes médiévales, donc ce n'était pas du tout des normes à cette époque-là, c'était vraiment juste des recueils de formulations thérapeutiques, en fait. Donc les savants qui faisaient des expériences ou qui traitaient les patients écrivaient leurs remèdes dans des grands livres, des manuscrits, que du coup on appelle pharmacopées maintenant.
Donc c'est comme des recettes un peu médicales.
C'est tout à fait ça.
Et alors dans ces pharmacopées arabes, qu'est-ce qu'on y trouvait dans ces recettes des plantes, des métaux, c'est ça ?
C'est ça. Alors, ça dépend beaucoup de ce dont on voulait traiter. Là, quand on mélange les plantes et les métaux, c'est souvent pour des problèmes cutanés, parce que donc il y avait quand même pas, on n'ingérait pas des métaux, par exemple. Donc, pour des problèmes oculaires ou pour des problèmes cutanés, on a beaucoup de métaux. Sinon, oui, il y a tout plein de substances végétales ou des substances animales même, beaucoup de sucre, des morceaux d'organes, des choses comme ça. Et donc, plein de parties de plein de plantes différentes, des arbres, des fleurs, des racines,
C'est très divers.
Exactement.
Alors, pourquoi vous êtes intéressée à ce corpus-là des pharmacopées arabes parce qu'il y avait peut-être, enfin, il y avait d'autres traditions, je pense à la médecine chinoise, ayurvédique. Pourquoi ces pharmacopées-là, précisément ?
C'est encore une pharmacopée qui est très peu étudiée. Donc, c'est beaucoup étudié d'un point de vue historique, justement, ou linguistique. Mm-hmm. Tous les historiens qui ont travaillé avec nous ont beaucoup étudié ça. Mais l'axe scientifique pur, expérimental, était très peu étudié, en fait. Donc, c'est des textes qui n'étaient pas accessibles. Les traductions ont mis beaucoup de temps à arriver, etc. Donc, c'est beaucoup de ressources qui sont assez uniques à ces pharmacopées-là, qui ont été un peu cachées, ou en tout cas pas peu étudiées. Et donc là, avec toutes les nouvelles traductions, on a eu accès à ça. Donc, beaucoup de sources peu étudiées, beaucoup d'innovations qui peuvent être cachées à l'intérieur, plus les bonnes personnes donc, qui sont réunies pour étudier ça.
Ça fait un
beau combo, quoi.
C'est un gros projet ? Il y a beaucoup de personnes qui y participent
Ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Moi, quand je suis arrivée, c'était quand même un peu le début. J'étais la deuxième doctorante à travailler sur cette thématique-là. Donc, c'était vraiment le tout début, quoi. Mais maintenant, du coup, mes directeurs travaillent beaucoup là-dessus à essayer d'étendre. Il y a un groupe de recherche qui s'appelle LIRGAP, maintenant. Qui essaye même d'être international. Donc, on a plein de chercheurs qui s'ajoutent, que ce soit des biologistes, des chimistes, même on a des sciences sociales, du droit, de l'environnement. Enfin, vraiment, ça devient un grand groupe maintenant. C'est assez chouette.
Et alors, sur ces pharmacopées, il y a plusieurs centaines de formulations, c'est ça. Donc, il y a eu une intuition. Les chercheurs se sont dit que ces vieilles recettes pouvaient représenter une piste de solutions très intéressantes face à l'antibiorésistance, ce dont on parlait dans l'introduction. Est-ce que vous pouvez nous aider à faire le lien entre ce passé et puis ce problème contemporain auquel on fait face aujourd'hui ?
Les plantes sont déjà un vivier vraiment très riche en molécules thérapeutiques. Tous les médicaments qu'on connaît même maintenant, qui sont des molécules uniques, 80% sont inspirés ou issus des plantes. C'est vraiment scientifiquement très valable. Et surtout, le pouvoir des plantes, c'est qu'elles ont beaucoup de molécules actives qui vont agir ensemble sur une bactérie et qui vont avoir des modes d'action différents. Donc, ils vont attaquer différentes parties, que ce soit la paroi des bactéries ou plus l'intérieur ou des choses comme ça. Et donc, en fait, en mettant des plantes, un cocktail de molécules comme ça, on peut attaquer la bactérie par plein de fronts, ce qu'un médicament avec une seule molécule ne va pas faire. Il va attaquer qu'un seul endroit de la bactérie qui, à force, va s'habituer. Donc c'est ça, en fait, l'antibiorésistance. C'est elle va réussir à déjouer le fonctionnement de l'antibiotique parce qu'elle va comprendre où est-ce qu'on l'attaque. Donc elle va se protéger. Donc en fait, avec les plantes, en l'attaquant à plein d'endroits, ou plantes et métaux, on va pouvoir limiter dans le temps cette apparition parce qu'elle va mettre plus de temps à comprendre ce qui lui arrive et donc à s'adapter. Donc ça, c'est déjà super. Et même si on n'y arrive pas du premier coup, ça peut juste inspirer les chimistes qui vont avoir des molécules qu'on ne connaît pas encore, des nouveaux squelettes qui ont des nouveaux modes d'action, qui donc attaquent la bactérie par un autre endroit. Et donc, ça peut les inspirer à faire quelque chose d'encore mieux et d'assez nouveau que la bactérie ne connaît pas encore. Donc, ça peut aider à lutter un peu.
Pour concourir au prix, Michel Serres, il faut croiser à minima une discipline de sciences humaines et sociales et une discipline scientifique. Vous, vous en croisez beaucoup plus, j'ai l'impression, parce qu'il y a de la chimie, de l'histoire, de l'informatique. C'est assez vertigineux.
Bah, c'était tout l'intérêt de ce projet. Enfin, moi, c'est de ça dont je suis tombée amoureuse. C'était vraiment super, super chouette. Donc, en plus de... Oui, moi, mon sujet est assez central dans ce consortium-là, mais ça m'a amenée à travailler avec vraiment plein de gens qui sont experts. Donc oui, voilà, soit en informatique pour étudier les manuscrits, les traduire, faire des intelligences artificielles, ou avec donc, des microbiologistes pour étudier les bactéries directement, des chimistes pour voir les molécules. Enfin, oui, fondamentalement, j'ai travaillé avec beaucoup, beaucoup de gens qui, dans la science, on va dire plus usuelle, ne rentrent pas en contact, en fait. Donc là, c'était vraiment juste une occasion qui était parfaite de rassembler tout le monde.
Ça a dû être très stimulant intellectuellement.
Et pour le coup, c'était pas juste pour faire joli sur les papiers. C'était vraiment des réunions très récurrentes. Tout le monde s'échangeait des résultats. On faisait beaucoup de congrès ensemble. Donc moi, j'étais amenée à aller voir des conférences d'historiens. Les historiens s'y venaient essayer de comprendre la chimie. Enfin, c'était vraiment un mélange prolifique d'idées. C'était vraiment super. Donc voilà, toujours adapter aussi son discours pour qu'on se comprenne chacun. C'est aussi un travail qui est assez, assez unique d'essayer d'adapter à chaque fois ses résultats, son... Pareil, essayer de comprendre ce que les historiens nous racontent quand on ne vient pas là. Enfin, c'était assez enrichissant et ouais, c'était super. Pour moi, c'est trop important de mélanger les sciences, d'avoir des contacts avec plein de disciplines, de casser ces barrières-là. On était un peu tous d'accord dans notre groupe de travail, justement, à dire que c'est trop enrichissant et que c'est trop peu célébré encore actuellement dans la science, que ça apporte plein d'innovations, ça apporte plein de discussions, que ce soit personnellement, professionnellement, scientifiquement, c'est hyper enrichissant. Et donc c'est super d'avoir l'occasion en fait de célébrer ça comme vous le faites aujourd'hui. Donc pour nous, c'est un grand merci déjà. Et voilà, continuons en fait à avoir des projets qui mélangent un peu tout le monde. Et voilà, ce serait super.
Peut-être un mot sur les résultats, parce que vous avez donc identifié des molécules considérées comme prometteuses pour la science. D'où elles viennent ces molécules ? J'ai l'impression qu'elles viennent plutôt de résines végétales.
C'est ça.
Plus que sur les métaux.
Je me suis plus axée sur les végétaux.
C'est plus votre travail, ok.
C'est ça. Je suis moins experte en métal. Donc c'est vrai que naturellement, en fait, on sait plus. Et puis on avait des résultats pour les plantes à continuer, donc... Avant de s'attarder sur les métaux, on a vraiment ça continué sur les plantes. Et pour le coup, c'est ce qu'on disait dans les ressources végétales de cette pharmacopée qui sont assez propres à cette pharmacopée-là. C'est qu'on a beaucoup de résines d'arbres. Je ne sais pas si vous voyez un peu la résine de pin quand on escalade des sapins quand on est petit et que ça colle aux mains. C'est ça, en fait, la résine.
D'accord.
Il y a beaucoup d'arbres comme ça dans la pharmacopée arabe médiévale avec plein d'espèces différentes, de plein de résines qui ont des compositions chimiques différentes.
Et alors, ce sont quels arbres, les résines de quels arbres qui se sont distinguées ?
Je ne sais pas si ça va vous parler, mais s'il y en a qui sont connus, parce que, par exemple, on a beaucoup étudié la résine d'un arbre qui s'appelle le Boswellia, qui fait l'encens. Donc,
d'accord.
Le vrai encens qu'on sent dans les cathédrales, etc. C'est une résine, en fait, qui vient d'un arbre. Ou la myrrhe aussi, c'est très religieux, on entend parler des fois, avec les rois mages. Donc la myrrhe, ça vient des comiphora, donc un autre genre d'arbre. Donc c'est une autre résine qui a une autre odeur, un autre parfum.
En tout cas, ça doit être très satisfaisant d'arriver à un résultat aussi concret et porteur d'espoir pour la science. Maintenant que votre thèse a été soutenue, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez poursuivre sur ce même projet ?
C'est une grande question, actuellement. Donc non, je ne peux pas continuer encore sur ce projet, tout simplement parce que donc, voilà, pour continuer sur un projet comme ça, il faut avoir des financements pour que le laboratoire puisse continuer de nous accueillir et on ne les a pas eus.
Okay.
Donc vu que le groupe de recherche continue de travailler, on essaye encore d'avoir des financements pour continuer, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Moi j'ai laissé mon bébé là-bas, on verra qui prendra la suite. Et donc moi maintenant, oui, voilà, j'ai ma carrière à moi à essayer de construire.
Merci beaucoup pour cette introduction à votre travail passionnant. On mettra le lien qui renvoie à votre thèse sur la page émission pour les auditeurs qui veulent en savoir plus. Et je dis, parce que je ne l'ai pas dit, le nom de votre thèse, les pharmacopées arabes médiévales comme source de nouvelles associations antibactériennes entre plantes et métaux.
Les podcasts de l'Institut de France.